Ce soir, je vais vous parler d'un thème qui n'est pas si simple, qui est le thème de l'abandon à la divine providence. L'abandon à la divine providence. Parce que dans notre foi, comme dans la foi juive aussi, nous croyons à l'action de Dieu sur notre terre. Nous croyons que le Seigneur agit, nous croyons qu'il y a un gouvernement, que Dieu gouverne, on peut dire que la providence c'est ça, Dieu gouverne le monde par sa sagesse. On peut dire ça comme ça. À la grande différence des mythologies païennes, où là, s'il y avait l'existence d'un dieu, une cause première, comme certains l'appelaient, etc., que l'on pouvait vénérer, mais ces dieux-là n'avaient aucune interaction avec les personnes humaines, n'avaient aucun intérêt à se manifester, à s'impliquer dans la vie des hommes. Donc on voit bien la grande différence l'alliance, la première alliance, et puis avec Jésus, où on voit que Dieu, évidemment, vient au cœur même des hommes, et on l'a fêté pendant le mystère pascal. Mais ça ouvre évidemment un certain nombre de questions. Le fait de dire que le gouvernement de Dieu sur la terre, comment est-ce qu'il faut l'entendre ? Alors il y en a certains qui ont essayé de dire, parce qu'en fait ça, d'essayer de trouver aussi une explication pourquoi les choses arrivent. Parce que c'est un certain nombre de choses qui font, qui arrivent dans notre vie, et surtout des choses qui sont difficiles, et qui parfois on se pose la question, mais qu'est-ce qui fait que c'est difficile ? Pourquoi je n'arrive pas à atteindre tel ou tel objectif ? Je voudrais bien faire ceci, faire cela, et puis finalement ça n'aboutit pas dans ma vie. Et pourtant, je fais mes prières, et pourtant, est-ce que j'ai démérité ? Donc, il y a une sorte de culpabilité, et la providence, du coup, il y a le gouvernement de Dieu dans tout ça, mais est-ce que... comment le comprendre ? Et je trouve qu'il y a eu plusieurs étapes, et donc on va essayer de suivre des étapes, plusieurs étapes qui font que, premièrement, on a voulu donc avoir cette explication du monde, on a besoin d'une explication du monde. Et le fait de certains, en tout cas qui s'appuyaient sur la philosophie, on dit au fond Dieu est la cause première et nous sommes les causes secondes. Et donc ce n'est pas la question des causes, c'est lui qui est la cause, mais s'il est la cause, forcément il y a une question qui se pose. Quid du mystère du mal ? Vous ne pouvez pas aborder la question de la providence sans aborder la question du mal et donc la question du salut. Et d'autres ont eu d'autres explications du monde. Hein, on voit dans l'explication marxiste, par exemple, c'est du conflit de classe. D'autres, c'était le progrès, la science va être l'explication du monde, le progrès va permettre aussi d'avancer, etc. Nous, c'est pas ça. C'est l'action de Dieu dans notre vie. Et le fait de dire, au fond, que oui, peut-être les causes, ça existe, mais que le Seigneur se manifeste aussi par des signes. Et moi, je vous invite à réinterpréter comment interpréter un signe, la question d'un signe. Parce qu'en fait, comment savoir que c'est de Dieu ? Comment savoir que ça vient de Dieu ? Donc ça veut dire un discernement. Comment savoir si ce signe-là vient de Dieu ou pas, et de quelle manière je peux l'interpréter ? Je crois que bien souvent, et c'est souvent comme ça avec la Providence, c'est d'une certaine manière, a posteriori, que l'on voit l'action du Seigneur. C'est en regardant dans le rétroviseur, on dit « Ah oui, là tu m'as guidé, tu étais avec moi ». Et le fait d'avoir cette certitude de la présence de Dieu avec moi dans ma vie, fait que je peux discerner des signes. Moi, je crois qu'il y a, encore une fois, l'action de Dieu dans notre vie, c'est quelque chose de concret, de réel, mais de réel dans la foi. Et ça, je vous invite à faire attention. La providence, ça vient du latin, providere, donc c'est voir en avant, ou pronosia en grec, etc., connaître d'avance. Mais d'une certaine manière, Dieu connaît d'avance les choses, mais nous-mêmes, nous vivons la providence de Dieu comme une attitude de foi. Et donc, le fait d'interpréter des signes, je trouve que c'est d'abord les signes de la foi, et de se faire aider pour l'interprétation des signes, en quoi quelqu'un qui peut valider le signe, en quoi je peux. C'est pas juste le fruit de ma propre imagination. Et je pense que comme validation, je pense que se faire aider par quelqu'un qui est un aîné dans la foi, qui a de l'expérience spirituelle, qui a l'expérience du discernement, hein, et donc cette attitude intérieure de discerner la volonté du Seigneur, c'est quelque chose qui est, fait partie de notre vie. Et de découvrir aussi que dans notre vie, il y a cette présence du Seigneur à travers les signes, mais cette présence du Seigneur, elle est plus générale aussi. Que chacun fasse mémoire quand est-ce qu'il a expérimenté la présence de Dieu. Je suis toujours dans l'accompagnement, je suis toujours attentif de poser la question, mais comment est-ce que vous êtes passé lors de la première rencontre d'une foi personnelle, d'une foi reçue, comme c'est le cas de la plupart d'entre nous, à une foi plus personnelle? Quand est-ce qu'il y a eu ce passage? Quand est-ce qu'il y a eu ce passage d'une certitude qui n'est pas forcément une évidence, hein? Et donc ce passage d'une expérience. Et la providence, je trouve que c'est le fruit d'une expérience. D'une expérience d'un Dieu qui est avec nous. Mais d'un Dieu qui est avec nous et qui ne nous épargne pas non plus les difficultés. Parce que la question de la providence, quand tout va bien, ben, l'explication du monde que l'on peut donner, ben, elle correspond à tout le monde. Mais c'est quand on est dans l'épreuve, qu'il y a quelque chose qui va être là, qui va nous questionner dans notre foi. Mais l'épreuve, je trouve que c'est comme comment dire, comme quand auparavant dans la photo argentique, hein, on imprimait sur un papier, et il y avait un bain qu'on appelait le révélateur. L'épreuve, c'est un révélateur de notre foi. C'est quelque chose de dire qui nous dit où est-ce qu'on en est de cette proximité avec le Seigneur, où est-ce qu'on en est de cette attention à sa présence. Parce que si on peut décrypter le monde par les causes, etc., mais c'est surtout par la présence de Dieu qu'on peut le décrypter. Est-ce que j'ai conscience que je peux m'appuyer sur quelqu'un qui, en fait, est plus grand que moi et qui, d'une manière ou d'une autre, m'accompagne? Est-ce que vous en avez fait de l'expérience? C'est là où je trouve que notre foi chrétienne, elle n'est pas facile à exprimer parce qu'elle est de l'ordre de l'expérience. Elle est de l'ordre de l'expérience et de l'expérience intérieure. Elle n'est pas d'abord de l'ordre de la morale. C'est pas d'abord une morale. Et vous voyez Jésus, quand est-ce qu'on veut le coincer? On dit, est-il permis de faire ceci? Est-il permis de faire cela? Hein, on le met uniquement comme s'il y avait deux solutions, donc quelque chose de binaire, zéro ou un. C'est d'abord une expérience. L'expérience d'un Dieu qui est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. Mais ce Dieu qui est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes, il agit dans l'histoire. Et il agit dans la grande histoire avec un grand H, mais il agit aussi dans mon histoire avec un petit H. Et donc, vous posez la question, où est-ce que j'ai découvert cette présence du Seigneur dans ma vie donc, ça me pousse aussi à me remettre entre ses mains. Parce que l'abandon à la divine providence, c'est ça, c'est remettre notre vie dans les mains de quelqu'un qui nous aime. Faire cette expérience et traverser la vie en découvrant au fond que les événements de notre vie, ce sont aussi des lieux de rencontre. Alors, la providence, c'est une providence, c'est dans la foi qu'on le vit. C'est pas une évidence. C'est pas quelque chose qui est simple, c'est une attitude de foi. Et donc d'adhérer à la volonté de Dieu et de découvrir la volonté de Dieu dans notre vie et d'y adhérer, c'est quelque chose qui vient dans la foi. Et quand Jésus dit voilà, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, voilà, c'est quand on dit on prie ça, c'est que nous on prie ça, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est comme un avenir, c'est une espérance. Mais c'est pas d'abord une réalité. On est dans l'espérance quand on parle de providence. On est dans une espérance parce qu'on découvre que Dieu nous appelle à quelque chose de plus grand, mais à vivre déjà dans la foi une expérience de sa présence. Et donc, je trouve que c'est important à ne pas confondre et donc avoir une certaine paix intérieure, une certaine paix intérieure qu'on est, quelles que soient les situations de notre vie, nous sommes accompagnés. Nous sommes, le croyant n'est jamais seul. Le croyant n'est jamais seul. Et ça, c'est quelque chose qui est... Il n'est pas forcément meilleure personne que les autres, que ceux qui ne croient pas, mais il n'est jamais seul. Il sait qu'il peut compter sur quelqu'un. C'est différent, moi je vous invite à faire la différence avec ce que l'on peut entendre un peu qui viendrait du New Age et donc un peu du bouddhisme, du lâcher prise. Vous avez entendu parler de lâcher prise, même dans une dimension chrétienne, vous entendez, il faut lâcher prise versus contrôle. Vous voyez, donc abandon à la providence. Alors, moi j'entends cette manière de voir, mais je vous mets en garde là-dessus. Et qu'on entend aussi, qu'on voit dans des méthodes de développement personnel. Derrière ça, il y a penser que, en fait, la vie, c'est la recherche d'une sérénité, et donc d'une absence d'épreuves. Et derrière ça aussi, c'est une sagesse qui vient du bouddhisme, hein, de lâcher prise. En fait, qu'est-ce qui nous fait, dans le bouddhisme, qu'est-ce qui nous fait souffrir? Ce sont nos désirs. Mais si on n'a plus de désirs, on ne souffre plus. Donc, une vie sans souffrance. On pense que une vie sereine, c'est une vie sans souffrance. Et donc, que vivre, en fait, l'abandon à la providence, c'est une vie sans souffrance, c'est un lâcher prise intérieur. Simplement, je vous invite à être prudent là-dessus, parce qu'on peut se tromper. C'est pas ce que je viens de dire n'est pas la de foi chrétienne. Ce que Jésus nous promet, c'est pas une vie sans souffrance. Ce que Jésus nous promet, c'est une vie avec lui. C'est pas pareil. Et le fait de voir cette dimension qui nous vient souvent du bouddhisme et versus, disons, à travers aussi une certaine manière de voir la vie, etc., c'est la recherche d'une sérénité comme but. Mais il n'y a plus la présence de la croix, il n'y a plus de transcendance. En fait, soyez attentifs à ces méthodes de développement personnel ou de yoga, etc., pourquoi pas de respiration, très bien, de méditation, très bien, de pleine conscience. Bon, je vous ai parlé de la méditation de pleine conscience, qui pourrait, pourquoi pas, être intéressante, mais dans une dimension de transcendance. Mais soyez attentifs à ce qui peut être véhiculé dans notre société d'une sérénité qui soit juste horizontale, vous voyez, qui n'accepte pas une transcendance, qui est juste l'évacuation des ondes négatives. C'est pas ça l'abandon à la divine providence. C'est pas ça. C'est pas ça. Je pense que faites bien la différence. L'abandon à la divine providence, c'est reconnaître que je suis accompagné, quelles que soient les circonstances de ma vie. C'est l'affirmation d'un autre, c'est l'affirmation d'une transcendance, c'est l'affirmation d'une vraie présence du Seigneur qui va faire que, quel que soit, et ça n'a pas à voir avec nos mérites aussi, quelle que soit notre situation, il y a quelque chose de Dieu qui m'est donné de vivre. À travers sa parole, à travers les sacrements, à travers la fraternité, à travers l'amitié, etc. Le Seigneur me guide par sa providence, les rencontres, par exemple, événements et rencontres. Quel est le... j'aime bien cette phrase du philosophe Pascal, les événements et les... les événements et les rencontres, ce sont nos maîtres spirituels. Oui, je pense que c'est intéressant, des choses que l'on n'aurait pas pu prévoir, des choses qu'on ne peut pas dominer, des choses que l'on ne peut pas contrôler. Voilà nos maîtres spirituels. Nous découvrons, nous avançons dans la vie parce que progressivement, à travers événements et rencontres, nous découvrons une présence qui est plus grande que nous-mêmes. Et donc, et ça c'est important de faire le lien, la différence entre... La providence est la question de nos mérites. Ce n'est pas lié à nos mérites. La grâce, par définition, est gratuite. Parce qu'on peut se dire, mais voilà, qu'est-ce qui se passe si la providence du lieu, etc. Je demande quelque chose, mais ça n'aboutit pas. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Parce que si on dit la providence, c'est Dieu qui gouverne de façon par sa sagesse, on se dit le Seigneur m'a oublié. Et vous voyez dans la Bible un certain nombre de, on pense à Job évidemment, qui fait partie des livres de sagesse. Le Seigneur, Job qui crie vers Dieu, qui dit voilà, où est-ce que tu es? Et c'est intéressant quand vous voyez le livre de Job, si vous l'avez déjà lu, et je vous invite à le relire aussi, de voir qu'il y a eu des défenseurs de Dieu, des défenseurs, mais si tu souffres, c'est que tu as péché, si tu souffres, c'est que ceci, etc., qui représentaient la tradition spirituelle d'alors. Et en fait, à la fin du livre de Job, Dieu, il donne la parole, donc c'est un livre de sagesse, donc c'est un conte, j'allais dire, donc inspiré. Et Dieu donne raison à Job d'avoir crié et ne donne pas raison à ses trois amis qui ont voulu défendre Dieu, sauver Dieu. Et je crois que l'abandon à la divine providence, c'est aussi ça, c'est savoir que des moments qui nous sont donnés dans notre vie, qui sont des moments peut-être particulièrement difficiles, c'est des moments qui vont être aussi le lieu d'un appel, qui vont nous mettre dans une certaine vulnérabilité. Et de découvrir dans nos vulnérabilités, de découvrir que la vulnérabilité n'est pas une menace. La vulnérabilité n'est pas une menace. Découvrir une présence dans notre vulnérabilité, dans nos fragilités. Ça, quand on est en situation de fragilité, quand tout va bien, voilà, c'est facile de croire à la providence. Mais moi, je parle de l'autre cas. Quand c'est une galère dans ton métier, tu n'arrives pas à trouver de travail qui corresponde à tes attentes, tu n'arrives pas peut-être à former un couple ou à avoir un projet qui fait qu'il y a un destin plus large que toi-même qui est en jeu, etc. Il y a un peu de se dire que dans ces moments-là, le Seigneur nous accompagne et qu'il est là, mais c'est souvent rétrospectivement que l'on voit qui nous a accompagnés. Et d'où l'importance de faire mémoire dans notre vie, d'une relecture de vie. La relecture de vie, ça permet justement de faire mémoire, de dire, tiens, qu'est-ce que... Et dans une, si vous avez l'habitude des retraites, les uns et les autres, mais une relecture de vie, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet de regarder dans le rétroviseur et dire, Seigneur, où est-ce que tu étais présent? Où est-ce que tu étais présent dans ce moment-là? Et peut-être que je me suis découvert vulnérable parce que j'étais dans une forme de toute-puissance. Vous savez qu'il y a les trois formes de toute-puissance dans les relations. Celui qui se croit sauveur, celui qui se croit victime, celui qui... et celui qui au contraire fait souffrir les autres. Donc sauveur, bourreau, victime. Ce qu'on appelle le triangle dramatique, le triangle de Cartman. Voilà, c'est trois manières. Le Seigneur nous délivre de cette toute-puissance. Et il nous délivre de cette toute-puissance en nous mettant dans une situation de vulnérabilité, de fragilité. Dans certaines étapes de nos vies, pas toujours, mais vivre l'abandon à la divine providence, c'est découvrir que lui-même est présent dans ces moments-là. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes accompagnés. Et de découvrir que au cœur même des moments les plus agités de nos vies, de difficultés, etc., il est là présent. Mais aussi, je trouve que l'abandon à la divine providence, je vous ai dit, ça a à voir avec l'espérance. Ça a à voir aussi à le fait de se projeter. L'espérance, vous le savez, c'est l'espérance en la vie éternelle, c'est croire aux promesses de Dieu et de promesses de Dieu en la vie éternelle, ce sont les promesses de Dieu. C'est pas une réalisation ici et maintenant, et qu'on dit que ta volonté soit faite, c'est qu'on sous-entend que c'est pas encore réalisé, et c'est important de renoncer aussi au paradis terrestre. Nous avons à renoncer au paradis terrestre, à croire qu'il y aura une plénitude de communion entre les personnes humaines ici-bas. Non, nous ne croyons pas ça. Ce n'est pas notre foi. c'est pas notre foi de pourtant de renoncer au paradis terrestre, mais de découvrir justement que le Seigneur, à travers sa présence, nous invite à nous projeter, nous invite à avancer. L'abandon à divine providence nous permet de construire des projets. Parce que précisément, on n'a pas peur. Qu'est-ce qui nous retient le plus dans nos projets? C'est souvent la peur. Les peurs d'être jugés, les peurs par rapport à soi-même, de ne pas y arriver, la peur de déplaire, les peurs du regard des autres, etc., etc., et qui fait que ça me bloque dans mes projets. Et l'abandon à la divine providence, c'est au contraire, je découvre que, comme savoir avec l'espérance, comme savoir avec un avenir, quelque chose qui est devant moi, qui est plus grand que moi, quand j'apprends à compter sur plus grand que moi, j'avance. J'avance et je me lance des défis. Et je découvre que c'est le fameux « n'ayez pas peur » de Jean-Paul II, etc., et que reprendre le « n'ayez pas peur du Christ hein, », parce que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ça la divine providence. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On le saura, il va nous le dire au moment de l'ascension, etc. Alors bien sûr, parfois on passe par la porte des pauvres, par la béatitude des pauvres, la béatitude de la fragilité, de la vulnérabilité. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une condition pour pouvoir se projeter? Et est-ce que le fait d'être dans le contrôle que promeut beaucoup notre société, parce que c'est ça, que rien ne nous échappe. On voit bien dans le monde professionnel la technique de l'ouverture de parapluie, tout le monde se protège, on prend des assurances pour tout, voilà, c'est des normes de partout, des normes de ceci, des normes de cela, etc. Personne veut être responsable. Hein, et personne veut souffrir, personne veut payer. Quand il y aura. Et donc on est de partout, on veut. Donc, et on est dans le contrôle. Et la vie professionnelle que vous avez, peut-être vous pousse à ça, mais aussi vous dit aussi une manière personnelle de vivre. Où est-ce que vous en êtes dans la confiance dans votre vie personnelle? Parce que l'abandon à la divine providence, ça a à voir avec la confiance. Est-ce que vous avez tenté la confiance? Est-ce que vous avez éprouvé dans certains moments où justement vous n'aviez pas le contrôle, et bien que les choses se passaient finalement pas si mal que ça? Et que c'est différemment de celle que j'avais imaginée, mais que finalement le Seigneur. Et du coup, j'ai un regard après coup, je dis, Seigneur, toi, tu étais là. Tu étais là. Et ça a à voir aussi, je trouve, l'abandon à la divine providence avec la gratitude. Vous voyez, justement, parce que j'accepte de ne plus être dans le contrôle, en tout cas, je reste responsable, hein, c'est. Encore une fois, l'abandon d'une vie providente, ce n'est pas une déresponsabilisation. C'est, vous êtes des personnes qui vivent une vie professionnelle, vivent une vie relationnelle, etc., qui mettaient les choses dans l'ordre dans votre vie, etc., prenez des décisions intelligentes, etc. Le fait d'abandonner la providence, ce n'est pas se déresponsabiliser. C'est juste vivre vos projets, vous projeter, sachant que, quoi qu'il arrive, eh bien, il sera là à vos côtés. Et donc, parce que savoir avec l'espérance, la divine providence vous permet de faire confiance. Vous serez accompagné. Vous serez... vous expérimentez... Dans la foi, encore une fois, dans la foi, parce qu'on aimerait le face-à-face. Vous savez que la foi, c'est faute de mieux. C'est ce qu'on appelle un régime d'indigence, la foi. La foi, c'est faute du face-à-face. On n'a pas le face-à-face avec Dieu, dont on a été privé après la chute. On n'a pas le face-à-face avec Dieu, mais on a un contact avec le Seigneur à travers la foi. Mais cette foi-là, dans la providence de Dieu, dans l'accompagnement de Dieu, dans le gouvernement, que Dieu contribue, tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, eh bien, fait que j'avance dans ma vie. Je prends des risques. Je prends des risques. Vous voyez, c'est aussi cette mentalité risque zéro. C'est-à-dire, c'est pas chrétien. Parce qu'une société comme ça, c'est parce que c'est un peu c'est toujours pareil, risque zéro, les normes, etc., etc., tout, le, d'être dans le contrôle, d'être, et qui est promu par nos sociétés, parce que c'est une société qui, où il y a une absence de transcendance. Donc, forcément, s'il y a une absence de transcendance, forcément, vous ne comptez que sur vos propres forces. Vous ne comptez que, voilà, vous verrouillez de partout, vous blindez de partout, parce que vous ne voulez pas souffrir. Et du coup, finalement, vous n'avancez pas. Vous ne prenez pas de risques. Et je crois qu'au contraire, l'abandon à la divine providence, c'est prendre des risques. Et ça qui est très beau, c'est aller de l'avant, c'est compter sur le Seigneur. Et justement, parce que vous pouvez... Une chose, c'est avoir la confiance en soi-même, mais on n'a pas toujours la confiance en soi-même. Certains ont plus ou moins confiance, c'est des questions un peu d'ordre psychologique, de caractère. Mais une chose, c'est la confiance en soi-même, autre chose, c'est la confiance en Dieu. La confiance en Dieu, et très certainement, c'est ça qui permet d'avancer. C'est que j'avance sachant que je serai accompagné. Mais faire tout, vous connaissez cette phrase, hein, faire tout qu'on attribue à Saint Ignace de Loyola, faire tout en pensant que tout dépend de moi et en sachant que tout dépend de Dieu. Faire tout en pensant que tout dépend de moi et en sachant que tout dépend de Dieu. C'est-à-dire que je me responsabilise, je mets en œuvre, donc je prends mes responsabilités, je suis adulte, vous êtes des adultes, vous êtes des hommes et des femmes, voilà, debout, qui osaient les choses, mais en même temps, je sais que tout dépend de Dieu. Je me remets dans sa main. Et vivre, c'est une manière de vivre. Vous voyez, je pense que l'abandon à la divine providence, c'est une manière de vivre. C'est pas quelque chose qui est déconnecté de nos vies. Au contraire, je trouve que ça donne même une fécondité à nos vies. Ça donne une manière de vivre qui n'est pas comme celle de ceux qui n'ont pas découvert la présence de Dieu dans leur vie. On a une manière de vivre qui est différente. Parce que précisément, quand on n'a pas découvert la présence de Dieu dans sa vie, bien on est dans la peur, on est dans le contrôle, on est dans la protection, dans la surprotection, enfin une sorte d'armure autour de soi pour ne pas être atteint. Hein, et donc on veut se rendre invulnérable. Mais quand j'ai découvert la présence de Dieu dans ma vie, ben du coup, j'ose le risque, j'ose la vulnérabilité, j'ose la confiance. Et ça, c'est une autre manière de vivre. Nous, comme disciples de Jésus, nous avons cette manière de vivre. C'est comme ça qu'on veut vivre. Ensuite, on y arrive plus ou moins. Mais déjà, faites mémoire. Moi, j'aimerais bien que ce soir, vous puissiez... à l'issue de cette soirée, faire mémoire peut-être déjà dans votre vie, comment le Seigneur vous a accompagné, comment il vous a montré son amour, comment il vous a montré sa présence, comment est-ce qu'il vous a montré son attachement. Et donc de relire dans la foi, parce qu'il s'agit bien de foi, de relire dans la foi les signes de la présence de Dieu. Donc je trouve que c'est assez intéressant d'avoir cette manière de vivre qui nous fait aller de l'avant, qui nous fait nous reposer non pas que sur notre confiance en nous-mêmes, mais sur un plus grand que nous, qui nous fait aussi accueillir la miséricorde. J'ai pu peut-être à nos actes manqués, il y a des tas de choses où on a entrepris puis ça n'a pas abouti, ou peut-être de par notre faute aussi, mais la miséricorde permet justement l'abandon à la divine providence. C'est une expérience, parce que je sais qu'il y a un pardon qui vient de Dieu, ben du coup je peux m'en remettre entre ses mains, et je peux oser. Et nous on a la grâce, et vous l'avez certainement fréquenté à l'occasion de la Semaine Sainte, d'avoir un sacrement de la réconciliation, qu'on appelle la confession. C'est une grâce chez les catholiques, et chez les orthodoxes aussi. Eh bien, cette grâce-là, encore une fois, nous pousse à agir, nous pousse à nous projeter. Parce que même si je me suis trompé, même si j'étais infidèle, lui, Dieu reste fidèle. Et donc, parce que j'ai expérimenté la miséricorde du Seigneur, eh bien, je découvre aussi que j'ai aussi le droit à l'erreur. Et de découvrir justement que dans l'abandon à la providence, on a aussi le droit à l'erreur, et que Dieu nous guide à travers aussi les côtés, je vais dire, sinueux de nos vies. Hein, on n'est pas forcément une ligne droite, etc. Il y a des actes qu'on regrette, qui ne nous ont rien apporté, etc. Mais il nous guide à travers... on est fait de creux et de bosses, etc. C'est ces chemins rocailleux par lesquels nous sommes passés à certains moments de nos vies, dont on ne voudrait plus aujourd'hui. Bien, il nous a guidés, il nous était présent. Et je trouve c'est vraiment quelque chose qui est tellement sa miséricorde, son pardon, le pardon qu'il nous a donné et le pardon que nous sommes donnés. Parce qu'une chose, c'est accueillir le pardon de Dieu, mais une fois, autre chose, c'est se pardonner à soi-même. Et ce qui nous bloque dans l'abandon à la divine providence, c'est entre autres les manques de pardon que l'on se fait à soi-même. Les manques de miséricorde. On ne se pardonne pas tel acte, tel ceci, tel cela, tel bon. Voilà. Et donc, ce qui m'arrive, en fait, c'est bien fait pour moi, c'est de ma faute. Et donc, culpabilisation. Je trouve ça l'inverse d'une vie en présence. C'est l'inverse. C'est l'inverse d'une vie en présence de Dieu. De réagir comme ça. De ne pas compter sur la miséricorde, de ne pas accueillir le pardon et se pardonner soi-même pour avancer. Et dans notre foi, on a cette grâce du sacrement qui justement nous permet d'avancer, qui nous permet de dire que je ne suis pas réduit, je ne suis pas la somme de mes actes manqués. Je ne suis pas la somme de mes actes manqués, non. Je suis plus grand que ça. Et je suis habité par quelqu'un qui est plus grand que ça. Et que même si j'étais infidèle, lui, Dieu, reste fidèle. Alors oui, on voit bien ce discernement qu'il faut avoir dans l'abandon à la divine providence, à la fois s'en remettre, à la fois être responsable. C'est un discernement. C'est pas une irresponsabilité, la providence de Dieu. Et s'en remettre au Seigneur, l'abandon à la divine providence, c'est pas une irresponsabilité, c'est pas quelque chose d'irrationnel. Nous avons des raisons de croire. Et c'est important de savoir que notre foi, la foi, elle est dans l'intelligence. C'est intéressant de savoir ça. La foi, elle est dans l'intelligence. La foi, c'est que nous avons des raisons de croire ce que nous croyons. Elle élève l'intelligence à des réalités qui ne sont pas accessibles aux cinq sens. C'est ça, la foi. La foi, c'est élever l'intelligence. Il y a les cinq sens, on voit qu'il y a de la pierre, on voit qu'il y a du carrelage, on peut toucher, on peut sentir, etc., etc. Les cinq sens sont là, mais la foi n'est pas mue par les cinq sens. Elle c'est adhérer à un Dieu qui se révèle. Et qui se révèle comment? Comme étant partie prenante de notre vie. Comme étant présent dans notre vie. C'est comme le Dieu d'Israël qui a agi par aussi en étant présent dans la vie du peuple hébreu, mais évidemment nous en Jésus-Christ, on découvre un Dieu qui a été présent dans notre vie. Et donc c'est comme ça qu'il se révèle. Et donc j'adhère à ce Dieu qui se révèle, je fais confiance à ses paroles, et le mystère pascal que nous avons célébré donc la semaine dernière, nous invite justement à aller dans ce sens-là. Pâques, ça veut dire passeur. Il y a un passage à faire. Je trouve il y a un déclic justement dans l'abandon à la divine providence. C'est que je ne suis pas, comment dire, uniquement le résultat de mes calculs. Je ne suis pas le fruit de quelque chose de complètement. Il y a quelque chose de plus grand que moi qui m'habite. Il y a quelque chose de l'ordre du mystère dans ma vie. Il y a quelque chose de l'ordre du mystère dans ma vie. Des choses que je ne peux pas expliquer. Pourquoi ça s'est passé? Accueillir aussi le fait qu'on ne peut pas tout expliquer. Parfois, on a une forme d'orgueil aussi, même en théologie, hein, de vouloir donner des raisons à tout. Non, c'est pas ça notre foi. Il y a une part de mystère, une part d'inconnu. Nous croyons que dans le face-à-face avec Dieu après la mort, bien, on aura la vraie lumière sur notre vie. Mais en attendant, on chemine dans la confiance. Hein, donc, voilà, je trouve c'est intéressant de l'abandon à la divine providence, c'est aussi laisser cette place au mystère. Dans le mot mystère, ça vient de muo en grec. Muo, c'est quelque chose qui est fermé, qui est caché. Il y a quelque chose qui est caché, quelque chose qui ne nous est pas encore révélé. Je crois que nous sommes aussi pour nous-mêmes un propre mystère. Nous sommes... Et je pense que c'est important, c'est de découvrir quelque chose de caché dans notre vie qu'on ne comprend pas, en tout cas pas à des moments, pas en ce moment par exemple, il y a des choses que l'on ne comprend pas, mais qui nous seront révélées dans le face-à-face. Ou des moments où Dieu se révèle à nous, dans la prière, dans la rencontre, il y a comme une certitude qu'il vient nous habiter, nous donne une lumière pour agir. Donc je pense que c'est important de voir que cet abandon à la divine providence est un fait assez concret et c'est quelque chose qui est le lieu aussi d'un combat spirituel. Précisément parce qu'on voit que notre société, elle est beaucoup dans le contrôle. Et ça, c'est faire tout comme si tout sachant que tout dépend de moi, comme si tout dépend de moi, en sachant que tout dépend de Dieu, c'est accueillir des contretemps. C'est accueillir que les choses que dans ma vie, je n'ai pas. Surgit quelque chose imprévu. Comment vous accueillez les contretemps dans votre vie? Comment vous accueillez l'imprévu dans votre vie? Comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce que. Un contretemps, ça peut être contretemps joyeux. Alors, quand si c'est joyeux, forcément, c'est beaucoup plus facile parce que du coup, on est dans l'action de grâce. Du coup, la place de la gratitude aussi, qui fait partie de l'abandon à la divine providence, la place du remerciement. Où est-ce qu'est la place de la gratitude dans votre vie? Vous avez quand même beaucoup reçu les uns et les autres. Vous avez été beaucoup donné. Donc, la place de la gratitude, justement, le remerciement, c'est l'affirmation d'un autre, le remerciement. Mais aussi de découvrir que dans notre vie, on a cette invitation à un combat intérieur. Parce que ça nous met dans une situation de dépendance, d'une certaine manière, de l'abandon à la providence, de remise de soi-même. Et notre ego, notre veut avoir raison, veut avoir le dernier mot, veut, etc., etc. Et quand on regarde l'exemple de Jésus, je trouve en sa passion, hein, comme nous l'avons contemplé la semaine dernière, on voit la remise, la confiance dans les mains du Père, complète. Hein. Entre tes mains, je remets mon esprit. Entre tes mains, je remets mon esprit. Mais c'est un combat intérieur, je pense que c'est, et c'est normal que nous ayons ce combat intérieur, parce que, encore une fois, la providence, la présence de Dieu n'est pas une évidence. Ce n'est pas quelque chose d'évident. C'est quelque chose qui est dans la foi. Alors, il y a des combats qu'on gagne, des combats qu'on perd. On laisse nos angoisses, on laisse nos peurs parfois dominer sur nous. On laisse nos peurs nous envahir. Nos angoisses nous envahir. Mais parfois, non. Parfois... Voilà, on sent qu'on a un moment de combat et qu'à un moment donné, on s'en remet au Seigneur, on lâche prise dans les mains du Seigneur. Et d'avoir, ayez des choses un peu à votre disposition, comme des paroles qui peuvent, en tes mains Seigneur, je remets mon esprit, ou le chant, vous savez, mon Père, je m'abandonne à toi, etc. Je pense, ayez des mots clés comme ça, quand vous sentez que vous êtes dans un combat intérieur pour accueillir la présence du Seigneur, de vous en remettre, mon Père, je m'abandonne à toi. Des mots comme ça, des prières spontanées qui viennent dans le cœur pour vous encourager à l'abandon à la divine providence. Quoi. Donc, parce que c'est pas spontané. C'est pas spontané. Parce qu'il peut y avoir aussi une peur de Dieu. N'oublions pas, hein, c'est le péché originel. Hein. Adam, où es-tu? J'ai eu peur et je me suis caché. Ça, c'est la peur de Dieu. Ça, elle est en nous. Et si je me remets complètement entre ses mains, il va me faire quoi? Il va me faire quoi? Oui, c'est en nous. Hein, quand on voit ce qu'il a fait, ce que Jésus a subi, alors c'est vrai qu'on regarde un peu la quantité de saints, etc., la vie qu'ils ont eue, c'est vrai que parfois on est un petit peu, est-ce que je veux dire, quoi, c'est un petit peu tourmenté, on se dit, oui, waouh, s'abandonner à à la providence de Dieu. C'est ça, c'est un petit exemple avec la grande Thérèse d'Avila. Alors qu'elle était en train de fonder des carmels un peu partout, etc., son carrosse, je ne sais pas comment dire, voilà, tombe et s'embourbe. Et donc, il fallait tout le monde devait descendre, pousser la chariot, etc. Du coup, tout le monde tombe dans la boue, elle tombe dans la boue, etc. Et elle dit comme ça, « Ah, c'est comme ça que tu traites, Seigneur, pourquoi tu m'aides pas ça ?» Et elle entend une voix intérieure, elle lui dit, « C'est comme ça que je traite mes amis. » Et elle lui répond, « Ça ne m'étonne pas que vous n'en ayez pas beaucoup. » Ben, voilà, donc, c'est sûr, voilà. Mais je trouve que d'exprimer sa colère aussi envers le Seigneur, parce que vous avez eu aussi des moments où vous avez compté et puis ça n'a pas abouti et puis ça, voilà, et vous avez été déçu du Seigneur, et puis ça fait partie de la vie de prière aussi, ça, ce dialogue avec le Seigneur dans la prière, d'une déception, de laisser aller sa tristesse, de s'autoriser à la tristesse, de s'autoriser à craquer dans la prière. C'est aussi ça, l'abandon à la divine providence. Hein, se mettre dans une attitude de pauvre. Hein, alors, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. C'est plutôt un encouragement. Un encouragement dans votre vie spirituelle. On débute, donc on est dans la semaine de Pâques, où le Seigneur fait toutes choses nouvelles. Il veut faire aussi par son Saint-Esprit toutes choses nouvelles en nous. Il veut nous renouveler. Et le fait de s'en remettre à lui, le fait de déposer tout souci du monde, comme il y a une prière qui dit ça, déposons tout souci du monde, allons à la rencontre du Seigneur, c'est aussi ça la manière de vivre en chrétien, quoi. C'est de savoir que quoi qu'il arrive, c'est le Seigneur aussi qui est là, que je pourrais rencontrer, que je pourrais découvrir, que je pourrais... et que c'est parfois aussi, je trouve, l'abandon à la divine providence, c'est un certain rapport au temps, c'est l'accueil d'une patience. Vous voyez, je trouve que c'est l'accueil d'une patience aussi, et c'est ça qui fait le combat spirituel, le fait d'être patient. Est-ce qu'on a une patience qui fait que les choses n'arrivent pas, on piétine, on voudrait que ça devienne dans nos vies, qu'on voudrait avancer dans nos vies d'adultes, etc., construire ceci, construire cela, etc., bon, qui est complètement légitime, et ça n'advient pas. Ben, c'est le temps de la patience. Et est-ce qu'au fond, l'abandon à la divine providence n'est pas aussi le temps de la patience, hein, d'accueillir ce temps qui m'est donné, d'attente, mais dans la confiance que le Seigneur, quelque part, viendra répondre à l'appel de celui qui crie vers lui. Voilà, mes amis, ce que je voulais vous dire, tout simplement, c'est des choses que vous connaissez déjà par cœur, ça, je n'ai pas la prétention, mais ce n'est pas des choses faciles à pratiquer. Ce n'est pas parce qu'on connaît qu'on les pratique. Est-ce que vous avez l'une ou l'autre question, peut-être, qui vous vient, ou remarque, que vous voudriez... Oui. Comment expliquer le rapport à la souffrance ? Je redis ta question, parce que oui. Oui. C'est ça. Et c'est la grande différence, comme je vous l'ai dit, avec le bouddhisme. On voit, comme tu disais, un petit bonhomme sympathique, etc. Bon, le joufflu qui voit, et puis l'invitation à une sérénité, etc. Et tu poses la question, pourquoi est-ce que ce rapport à la souffrance... déjà parce que par la souffrance, le Seigneur rejoint beaucoup d'entre nous et rejoint des étapes de notre vie. Et de penser à une sérénité qui soit une absence de souffrance, c'est un mensonge pour moi. Pour moi, c'est un mensonge. Le but de la vie, ce n'est pas d'aller chercher la souffrance, vous en êtes bien d'accord, mais le but de la vie, c'est comment la traverser quand elle arrive, quand arrive l'injustice. Quand arrive la compréhension, la maladie, le deuil, etc. Comment le vivre ? Et C'est vrai que nous, comme chrétiens, disciples de Jésus, on a un rapport à la souffrance qui est très particulier. Parce que, ben voilà, vous avez la croix, vous tournez, la croix du Christ est là, vous rentrez dans une église, tout de suite, vous voyez la croix. Et on commence toute célébration par le signe de la croix, etc. Ça veut dire aussi une compassion, je trouve, que dans notre religion, c'est qu'on on peut traverser des moments difficiles, mais cette présence de Dieu aussi, on s'appuie sur le Seigneur qui lui-même aussi a travaillé à traverser les moments difficiles. Je crois que c'est ça qui est différent des autres religions. C'est parce qu'on découvre dans nos... C'est pas dans ces blessures, j'ai trouvé la guérison. Je crois que c'est le prophète Isaïe qui dit « Dans ces blessures, j'ai trouvé la guérison. » Le fait de la compassion du Christ qui vient porter avec nous nos blessures, et je trouve ça très beau de voir un Jésus qui ressuscite avec ses blessures. C'est très beau, c'est très puissant. Il ne ressuscite pas avec, bodybuildé, magnifique, etc. Non, il ressuscite avec ses blessures. Thomas, mets tes doigts dans les traces des clous, mets ta main dans mon côté. Et je trouve ça, mais ces blessures sont devenues lumineuses. Et donc, l'abandon à la providence, c'est de dire, oui, dans nos humanités, il y a des choses blessées, on peut en blesser d'autres, on a nous-mêmes été blessés, le Seigneur a été blessé, mais par son Saint-Esprit, je crois que je ne veux pas évacuer la souffrance de ma vie, je l'accueille, je ne veux pas la rechercher ni l'évacuer. Si elle se présente, je la peux, voilà, elle est comme ça. Mais j'ai confiance que par ses blessures, il m'apporte la guérison. J'ai confiance que en contemplant Jésus qui se donne, et il vient aussi habiter en moi, me redonner une espérance. Maintenant, un Dieu qui n'aurait pas, qui n'a justement l'évacuation de la souffrance dans certaines religions, entre autres le bouddhisme, etc., et qui est plutôt une philosophie hein, qu'une religion du reste, dans des philosophies, dans le New Age, etc., on voit beaucoup ça, hein, qui est très fort, je trouve que ce n'est pas la réalité. Je me rappelle, je vivais en Amérique latine pendant un certain temps, et il y avait une secte au Brésil qui, leur thème, c'était arrêter de souffrir. Au Brésil. Voilà, c'était ça. Ils vendaient leur religion comme ça. Ça, c'est pas chrétien. Quand quelqu'un met de côté la croix, c'est pas chrétien. Et c'est par la folie de la croix que Dieu a voulu aussi confondre les sages de ce monde. C'est par la folie de la croix. Et ça, je pense que c'est... Mais c'est, j'entends que ce soit difficile à accueillir, à comprendre. Mais du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça nous a fait que au tout début de l'Église, l'Église est allée aux frontières de l'humain. L'Église est allée vraiment vers les plus douloureux. Justement pour apporter la bonne nouvelle du salut, que le Seigneur est proche de vous. Vous savez, quand Mère Teresa, en Inde, a voulu fonder son œuvre, elle était extrêmement mal accueillie. Vous vous opposez au karma. Karma, c'était le destin. Ah, mais ce monsieur, il est dans la rue, il est mangé par les vers dans la rue. C'est son destin. Il réincarnera. Croire en la résurrection et croire en la réincarnation, ça n'a rien à voir. Croire en la résurrection, c'est croire à un temps fléché, croire à un salut. Et ça, c'est très, très, très fort dans l'hindouisme, qui est une variante du bouddhisme. Hein, mais dans des philosophies comme ça, le fait du destin, justement, de la prédestination, un mektou, c'est écrit, hein, les Arabes disent ça, mektou, c'est écrit, c'est le destin, etc. Ce n'est pas notre foi. Je peux faire de ce moment-là un acte d'offrande de moi-même. Je peux offrir. Hein, et je crois que c'est la grande différence entre la dimension chrétienne. Et c'est pour ça que le christianisme a tout de suite été aux frontières de l'humain. Parce que, justement, il contemple le crucifix qui s'est abandonné entre dans la divine providence, dans les mains du Père. Vous avez d'autres questions ? Oui, aussi. Alors oui, que tout est, on dit que tout est écrit, que Dieu a un plan et qu'il s'accomplit. Le plan de Dieu, c'est de nous sauver. Mais ensuite, du comment, je pense que c'est... En tout cas, on n'est pas du tout dans cette dimension de prédestination. Parce que ça, c'est pas... Ça, je pense que ce n'est pas la manière de voir la vie de l'abandon à la divine providence. Ce n'est pas une prédestination. Ce n'est pas que... chaque pensée est voulue par Dieu, est pensée par Dieu, est anticipée par Dieu, etc. C'est là où il y a toujours eu, bon, ben ça c'est de tout le temps, c'est qu'est-ce qui est de nous, qu'est-ce qui est de Dieu, qu'est-ce qui est de nous, c'est vrai Dieu, vrai homme dans notre foi. Vrai Dieu, vrai homme. Et donc à la fois c'est de Dieu et à la fois c'est de nous. Mais si c'est de Dieu, on dit c'est pas de nous, si c'est de nous, c'est pas de Dieu. Oui, et donc du coup, Dieu accomplit son plan. Oui, son plan qui est de nous sauver, de manifester son amour. Maintenant, comment cela va se réaliser, comment cela se fera-t-il? Ben voilà, Marie, elle accueille les circonstances et les nécessités comme des maîtres spirituels, des choses que vous n'avez pas forcément choisies, etc. Donc oui, il y a des fausses croyances pensant que j'ai un destin, Dieu a un plan très précis pour moi, mais qui n'aurait pas... Où est le libre arbitre alors? Où est le libre arbitre? Or justement, le libre arbitre est au cœur même de la dimension chrétienne. Le choix. Jésus, quand il vient à la rencontre des personnes, il les met face à un choix. Il réveille leur désir. Il n'éteint pas leur désir. Contrairement à des religions, à des philosophies orientales. Il n'éteint pas le désir des gens, il révèle le désir des gens. Et ensuite, il passe son chemin et il n'a plus de contact avec eux, avec la Samaritaine, n'était pas au pied de la croix, la femme adultère, l'homme l'aveugle de naissance, etc. Il a réveillé la vie en eux. Donc, attention aux fausses croyances, de penser que Dieu a un plan pour moi, que tout est écrit, c'est pas notre foi en tout cas. Oui. Comment intégrer dans le monde professionnel la dimension d'abandon à la divine providence alors que tout est... Il faut avoir confirmation par mail, il faut avoir etc., etc. C'est pas simple parce que c'est exactement tout ce que je vous ai dit, c'est l'opposé. Donc, ce que vous vivez dans vos vies pro, c'est l'inverse. Il faut tout être checké, double checké même, etc. Confirmation par mail pour ceci, par cela, etc. Bon. Et s'il y en a un qui n'a pas fait ça, l'exemple doit venir d'en haut, je pense. D'où l'importance de la qualité du management. Dans à l'abbaye d'Ourscan, là où je suis, on est dans un grand projet de travaux, de restauration de l'abbaye, etc. Et c'est moi, je suis entre autres chargé de ces travaux. Et j'ai donné au tout début, j'ai réuni, vous étiez 45, les prestataires de services, les entreprises, les financeurs, etc., les monuments historiques. Et je leur ai dit dans quel esprit je pensais faire vivre ce chantier. Et entre autres, la bienveillance. Et ce qui fait que, et c'est pour ça que c'est un chantier qui intègre des personnes qui sont loin de l'emploi, qui est soucieux aussi de l'impact sur la nature, etc. Bon bref, c'est un chantier Laudato aussi, hein, comme le pape François nous y invite. Et à un moment donné, il y a eu un bug. Il y a eu un bug, mais pas un petit bug. C'est qu'une entreprise a fait des travaux qui n'étaient pas commandés. Il y avait juste pour 150 000 euros. Alors, l'emballement du chantier. Le chantier s'est emballé. C'était à fond, ils ont à fond dedans. Si tu veux, normalement, non. Je ne sais pas si certains sont dans la construction, le maître d'ouvrage, il y a des arbitrages, quand ce n'est pas prévu, du coup, il valide, tu fais un devis, il y a un avenant au contrat, clac, tu signes, tu vois. Et les travaux étaient déjà faits. Cette somme-là. Et de fait, les travaux devaient être faits. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Du coup, réunion de crise. Qu'est-ce qu'on va faire? J'aurais pu partir en procédure, que j'aurais probablement gagné. Du coup, on arrête le chantier, on perd 8 ans. Grosso modo, une procédure, c'est appel, contre-appel, etc. Parce que, du coup, tout le monde va être arrosé, parce qu'évidemment, tous ceux qui auraient pu signaler qu'il y avait une difficulté ne l'ont pas signalé, donc vous n'avez pas signalé, donc je vous attaque aussi, je vous attaque en justice. Ça peut aller très vite, hein. Parce que 150 000 euros hors taxe, c'est quand même pas rien. J'ai pas choisi ça. Premièrement, j'ai vérifié, est-ce que les travaux étaient nécessaires? Oui, ils étaient nécessaires. Est-ce que le bureau de contrôle a validé la qualité des travaux? Oui, c'est des structures. On parle de charpentes métalliques, etc., qui soutiennent des planchers béton. Voilà, donc c'est structurel. Donc c'est très important. Surtout sur un monument qui a été très abîmé pendant la guerre de 14, donc ça tient le bâtiment. On a accepté, du coup, on a re-signé un avenant, mais après. Mais vous voyez, ça a donné un esprit, je trouve, qui me semble problématique, c'est que quand on met l'argent comme le premier et encore plus le seul critère. Or, parle de chantiers, et certains sont peut-être dans le bâtiment parmi vous, des chantiers qui sont problématiques, ou même des entreprises qui sont problématiques, c'est rarement des questions d'argent. C'est beaucoup des questions de relationnel. Ce qui fait que, par exemple, autre point, c'est qu'une fois par mois, je fais le point avec l'architecte, je dis comment on est en relation tous les deux. Comment vont nos relations avec nous, qu'on appelle maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire le propriétaire. Comment ça se passe, vous, maître d'œuvre, et l'architecte, et moi comme propriétaire, représentant du propriétaire. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a eu des incompréhensions? Une fois par mois, on fait ça. Et je pense que j'ai mis ça en place, de mettre la communion comme un outil pédagogique. Et un outil, en fait, efficace. Et encore une fois, c'est les questions humaines, les blocages humains. Ce n'est pas des blocages techniques, parce que la technique, on peut toujours trouver une solution technique. D'argent, on peut aussi toujours trouver de l'argent, je veux dire, si on veut la preuve, nous on en a trouvé. Mais on a une petite communauté, mais c'est souvent là où ça bug. Ben, du coup, si tu mets le... Mais il faut être... L'avantage, c'est que moi, je suis décisionnaire sur ce coup-là. Alors, à vos âges, vous êtes rarement décisionnaire. Vous ne pouvez pas valider que l'entreprise va dépenser 150 000 euros de plus que ce qu'elle avait prévu. Mais d'où l'exemple doit venir d'en haut. Mais voilà, à votre niveau, voyez comment vous pouvez naviguer et faire du lien. Oui, une dernière question, oui. Alors la question, c'est comment faire quand des amis, lors de moments d'épreuve, se sont détournés. Moi, j'aime bien cette psaume qui dit « La colère des hommes te rend gloire. » La colère des hommes te rend gloire. Parce que ce n'est pas spontané dans l'épreuve du deuil, par exemple. Le deuil, je pense au deuil d'un enfant, vous voyez, le deuil, parce que c'est pas... Bon, le deuil d'une grand-mère, voilà, c'est dans l'ordre des choses, mais des choses où on sent une injustice, donc il y a un moment de colère. C'est là que face à l'épreuve, l'épreuve est un révélateur, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est un révélateur. Ça révèle, ça met à l'extérieur ce que nous portons à l'intérieur. Vous voyez, donc je pense que vous pouvez juste accompagner. Attention de ne pas vous faire les défenseurs de Dieu, comme dans le cas de Job, avec les amis de Job qui défendaient la tradition. Non, juste être là. Pas de donneur, plutôt être interrogatif, plutôt comment est-ce que tu vois? Et puis si la personne, non, ne viens pas avec ton Dieu, regarde ce qui m'arrive. C'est ça la question, c'est regarde ce qui arrive, etc. C'est inadmissible. Bon, voilà, bon. La personne dans la colère, elle est dans la colère. Mais on est avec elle dans la colère.